Vous écoutez France Culture.
Réplique, la crise du vivre ensemble avec Christophe Guilluy et Guillaume Leblanc. Comment va la France et où va-t-elle? C'est pour répondre à ces questions et pour réfléchir aux difficultés du vivre ensemble dans un monde toujours plus mondialisé et dans une société en pleine mutation démographique que j'ai invité aujourd'hui le géographe Christophe Guilluy qui publie « Fracture française » chez François Bourin et le philosophe Guillaume Leblanc, auteur de « Dedans, dehors, la condition d'étranger » aux éditions du Seuil. Mais l'actualité immédiate s'est invitée dans notre débat avec le sondage publié dimanche dernier par le journal Le Parisien et qui accorde 23% d'intention de vote à Marine Le Pen au premier tour des élections présidentielles. Nous commencerons donc par là. Que signifie, selon vous, cette percée du Front National dans les enquêtes d'opinion, que nous dit-elle de l'état de notre nation, Guillaume Leblanc?
Oui, je pense qu'il s'agit d'une peut-être moins d'une percée que d'une amplification d'un mouvement qui est déjà présent depuis de nombreuses années et qui, je crois, nous alerte, en tout cas m'alerte, moi, pour ma part, sur la difficulté qu'ont beaucoup de personnes de redonner un sens, disons, à ce qu'est au fond la politique. Alors il s'agit bien sûr d'un sondage, donc il faut faire preuve de précaution. Il y a aussi un contexte particulier à l'énoncé de ce sondage. Un déficit, entre guillemets, de représentants légitimes à gauche et un certain délabrement de l'idée de gouvernement à droite. Mais malgré tout, je crois que, au fond, les Français ne savent plus peut-être très bien où ils en sont avec la manière de vivre leur rapport à la politique, et de telle sorte que l'idée qu'il existerait un sens interne pour les vies ordinaires de cette politique, je crois, est vidée de signification. Et il me semble de ce point de vue que ce qui apparaît ici, c'est peut-être quelque chose comme une dénaturation de l'expérience de la conflictualité politique, puisque je dirais que si là où Hannah Arendt faisait du conflit, l'une des formes de la vie politique, il me semble que ce conflit aujourd'hui est redimensionné dans le thème de la guerre économique, et c'est tout le thème du retraitement finalement, de la délocalisation qui est opérée aujourd'hui par Marine Le Pen, et aussi de la guerre ethnique ou sociale, avec toute la question de l'étranger qui devient l'une des figures de l'ennemi. Et je crois que cette façon d'envisager la politique par le biais de la guerre, par la division finalement ami-ennemi, est une façon désespérée de redonner sens à la politique. Et c'est ça, je crois, qui affleure aujourd'hui dans cette amplification un peu désespérante du Front National.
Christophe Guilluy.
Déjà, première chose, ce qui m'intéressait par rapport à la publication de ce sondage, c'est d'abord été la réaction, je dirais, du monde politique et médiatique. La première réaction a été de dire « ce sondage n'a pas de valeur ». C'est assez intéressant, c'est la première fois, je crois, qu'on conteste autant un sondage, alors que nous avons des sondages d'opinion quasiment toutes les semaines. Comme si finalement on avait là une réalité qu'on ne souhaitait pas voir. Moi, ce qui me frappe dans ce sondage et plus généralement sur les intentions de vote pour le Front National, mais qui effectivement, je suis d'accord avec Guillaume Leblanc, pas quelque chose de nouveau. Hein. N'oublions pas qu'on a là un mouvement depuis des dizaines d'années maintenant. Hein. Il est faux de croire que en 2007, le Front National, grâce à Sarkozy, aurait été balayé de la scène politique. Hein. Au contraire, je crois au contraire que la victoire de Sarkozy, mais ça on en parlera peut-être, est une victoire posthume de Jean-Marie Le Pen aux élections. Ça c'est, je crois. En réalité, ce qui est très intéressant...
Vous diriez qu'il a gagné sur le programme
des thématiques. Il a gagné essentiellement sur les thématiques de Le Pen. On a après habillé la chose finalement autour de la question du pouvoir d'achat. Les gens auraient voté Sarkozy finalement pour une question sociale, comme si finalement il y avait là l'idée d'oublier cette réalité qui est très pesante et qui va ressurgir demain aux prochaines élections, et en tout cas qui est aujourd'hui celle qui est illustrée par ce sondage. Alors le sondage, Marine Le Pen nous parle d'une réalité, pas n'importe quelle réalité. N'oublions pas une chose, et c'est je crois quelque chose qu'il faut garder en tête tout au long de ce débat. Nous parlons de sujets, le vivre ensemble, l'identité, qui sont des sujets les plus clivés socialement. Nous parlons donc d'identité, nous parlons donc de culture, nous parlons donc de la nation, nous parlons donc de la France, mais nous parlons en même temps d'une question sociale. La réalité qui est aujourd'hui dite, et en tout cas par Marine Le Pen, est celle des catégories populaires. Les catégories populaires, il faut le dire et le redire, sont aujourd'hui majoritaires en France. Ce sont les catégories oubliées depuis 20 ans par la gauche et la droite. Il est là le problème. Le problème majeur, c'est la place des catégories populaires dans cette France mondialisée, place qui est aujourd'hui de plus en plus périphérique.
Mais alors, les classes périphériques des catégories populaires, mais justement, c'est l'un des grands thèmes de votre livre, Christophe Guilluy. Vous dites que, au fond, il y a une polarisation qui se fait entre des centres-villes de plus en plus gentrifiés, c'est-à-dire une sorte d'embourgeoisement de la vie urbaine à l'intérieur des métropoles, et puis d'un autre côté, les banlieues, avec les problèmes d'une immigration familiale, et ceux qu'on oublie, ceux dont on ne parle pas, c'est toute cette France souffrante, en effet, périurbaine, rurale. Souvent d'ailleurs, et là nous aurons l'occasion d'y revenir, ce sont des gens qui ont quitté les banlieues parce qu'ils n'y sentaient plus chez eux. Et là, je me tourne vers vous, Guillaume Leblanc, ces gens en ont gros sur le cœur, effectivement. Ils se sentent oubliés, mal aimés d'un certain discours médiatico-politique. Mais quand je vous lis, et quand je lis « Dedans, dehors », j'ai le sentiment que vous ne pouvez, au fond, vous aggraver encore le fossé qu'il y a entre eux et nous, puisque vous en venez à dire que c'est un préjugé, en quelque sorte, qui nous fait considérer les étrangers comme des étrangers, qui établit une sorte de clivage entre ceux d'ici et ceux d'ailleurs. Vous nous invitez à surmonter cette opposition et vous faites peser le poids de la responsabilité, de la culpabilité de la situation à ceux précisément qui vivent cette opposition et qui se sentent mal parce qu'ils ne se sentent plus chez eux. Quelle est votre appréciation de cette souffrance des catégories populaires, Guillaume Leblanc ?
Alors effectivement, j'ai cherché dans mon livre à montrer que l'idée, la référence à l'étranger devait être réfléchie depuis un certain nombre de catégories qui produisent l'idée même d'étranger. Autrement dit, je m'inscris en faux contre toute une tradition qui voudrait accorder à l'étranger l'idée qu'il y aurait un mode d'être, au fond, de l'étranger héroïque, qui ensuite passerait dans la langue sous la forme différenciée de l'étranger, de celui qui vient d'ailleurs, etc. Pour moi, l'étranger est d'abord quelqu'un qui relève d'une catégorie par laquelle il est constitué comme étranger, effectivement, de telle sorte que on ne naît pas étranger, mais on le devient, et on le devient toujours à partir d'un jugement qui est produit par un certain nombre de sujets qui, en définissant une vie comme vie autre, en viennent à l'éloigner de notre monde commun. Autrement dit, s'il y a quelque chose comme un monde commun, qu'on lui donne la référence d'identité nationale ou autre, c'est toujours effectivement par référence à une bordure, à une périphérie qui vient être constituée comme bordure par ce geste des uns de s'octroyer, au fond, la possibilité de définir certaines vies comme des vies autres, donc des vies potentiellement étrangères.
Mais je suis étonné quand même, Guillaume Leblanc, parce que là, je vais vous faire l'objection du sens commun. Un monde commun, précisément. Mmh. C'est une histoire commune, une langue commune, des prémices communes, des références, une culture de référence, pour reprendre le terme d'Angela Merkel, une langue culture. Bien, ceux qui ne parlent pas cette langue, ceux qui n'ont pas cette mémoire, ceux qui ont une toute autre expérience historique, comment les appeler par un autre nom que celui d'étranger? Et s'il est vrai que ces gens-là deviennent majoritaires dans certaines zones de notre monde commun, est-ce que cela ne crée pas nécessairement un trouble des difficultés? Et un trouble et une difficulté que nous ne devons pas imputer à je ne sais quelle réaction xénophobe. Guillaume Leblanc.
La question serait la suivante. Comment en sommes-nous venus à l'idée qu'il y a quelque chose comme une évidence du monde commun? C'est-à-dire, comment est-ce que, par quelle procédure avons-nous construit l'idée qu'au fond, habiter un monde, c'est nécessairement habiter un commun de ce monde? Et de ce point de vue, il est vrai que je considère qu'il y a toujours eu des distinctions très importantes entre les habitants des villes et les habitants des campagnes, etc., entre les habitants d'une ville et les habitants de la ville d'à côté, qui faisait que, d'une certaine façon, la notion même de monde commun mériterait d'entrer dans une généalogie historique qui en montrerait la construction progressive. Sur ce point, je crois que la référence, disons, à l'étranger est dramatisée dès lors que la construction du monde commun se fait dans les limites mêmes d'une nation. Je veux dire par là que c'est à partir du moment où nous avons quelque chose comme la construction d'un récit national qui vient donner corps à l'idée de nation, l'étranger, en tant qu'il est étranger à la nation, l'étranger n'a pas toujours été cet étranger à la nation. Souvenons-nous d'Homère, du noble étranger qui arrive et à qui on doit hospitalité. C'est à partir du moment où l'étranger devient un étranger à la nation que, justement, il devient ce contre quoi le monde commun doit se prémunir. Et là, il y a ce thème, effectivement, du dedans d'un monde commun qui s'élabore par rapport à une zone liminaire qui est la zone d'un dehors, plus ou moins récalcitrant, effectivement.
Christophe Guilluy.
Je crois qu'il faut essayer de recontextualiser la question de l'étranger par rapport à la mondialisation. C'est-à-dire que on ne peut pas penser l'étranger aujourd'hui comme on le pensait il y a 20 ans ou 30 ans. La question aujourd'hui, elle est la mondialisation, le multiculturalisme, le changement de nature de l'immigration. N'oublions pas que nous sommes passés à partir de 1974 d'une immigration de travail à une immigration familiale. Ce qui veut dire que les gens arrivent là où se concentrent déjà des populations d'origine immigrée. Ce qui veut dire, par effet mécanique, que nous avons des territoires où les minorités deviennent majorités. Et que là, la question n'est plus de savoir qui est étranger à quoi. La question est de savoir qui est minoritaire et qui est majoritaire. Le grand mouvement, je dirais, de départ des populations d'origine française, pour aller vite, des banlieues. Il n'a pas pour moteur essentiel le racisme, hein, le rejet de l'autre. Il a simplement pour moteur, alors déjà des logiques économiques, des logiques foncières évidemment, mais aussi cette idée assez simple que les gens ne souhaitent pas devenir majoritaires. Cette question minorité-majorité est fondamentale. Elle dit actuellement l'insécurité culturelle que subissent non pas tout le monde, mais prioritairement les catégories populaires. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que nous sommes actuellement dans une fragilisation extrême de ces catégories populaires. L'insécurité sociale dont on parle à juste titre, qui est celle tout à fait liée à la mondialisation, et d'ailleurs, quand on regarde finalement la géographie des plans sociaux aujourd'hui en France, c'est celle de cette France périphérique, hein, périurbaine et rurale. C'est bien là que ça, l'insécurité sociale, je dirais que c'est à peu près admis. Mais il y a une autre insécurité pour ces catégories populaires-là. C'est l'insécurité culturelle. Je vis dans un environnement qui évolue sans cesse. Quels sont mes référents? Quelles sont mes références culturelles? Je vis dans un territoire où le basculement démographique est en cours, où l'instabilité démographique est permanente, et j'ai besoin, justement, précisément en quittant ces quartiers, de retrouver une forme de stabilité, d'un environnement familier. Mais il n'est pas question de parler là du rejet de l'autre, comme on pouvait le parler. Parce que moi, ce qui me gêne dans ce discours, je dirais, général, c'est que vous faites une analyse du rapport à l'étranger qui, finalement, pourrait être vraie aujourd'hui, comme elle était vraie dans les années 30 ou 40. Donc, on serait dans une logique, finalement, où l'autre, l'étranger, pourrait être pensé aujourd'hui comme il l'était pensé avant-guerre ou après-guerre. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une autre logique. Nous sommes dans une logique où effectivement l'instabilité culturelle et démographique fait que le rapport à l'étranger n'est pas un rapport de rejet.
Guillaume Leblanc. Oui, là, je voudrais réagir sur deux points. D'abord, vous avez évoqué les années 30. Bon, effectivement, dans les années 30, il y a les études historiques montrent qu'il y a environ 11% de la population étrangère en France qui a été naturalisée contre 34-35% à peu près aux États-Unis au même moment. Donc il y a bien un problème de la construction de la nation par rapport à ces étrangers. Et ce problème de la construction de la nation par rapport à ces étrangers a été effectivement une grande constante, je crois, de l'histoire de notre pays. Et de ce point de vue, effectivement, je soutiendrai volontiers qu'il faut repenser
l'analogie, pour vous,
l'analogie entre ce qui se passe dans les années 30 sur le rapport nation étranger et aujourd'hui. Oui, il y a une analogie par le fait que, justement, les étrangers sont relégués à des formes de non-naturalisation qui n'ont cessé, au fond, de s'amplifier. Mais je dirais que l'essentiel pour moi n'est peut-être pas tant là que dans la notion même d'instabilité que vous mettez en avant, qui semble vous faire très peur. Alors moi, je dirais que c'est un travail de philosophe et donc pas de géographe, mais il est certain que j'essaie de repenser quelque chose comme une certaine joie de l'instabilité culturelle, dans la mesure où la production de nouvelles normes pour un pays peut être quelque chose de bienheureux et pas forcément quelque chose de maléfique.
Christophe Guilluy.
Bon, je voudrais parler un peu de revenir finalement à l'échelle du territoire. Quand vous dites il y a une analogie années 30 aujourd'hui et la situation d'aujourd'hui.
C'est vous qui m'avez emmené sur ce.
Bien sûr, non, mais vous le confirmez.
Je confirme que le point d'analyse, oui, effectivement, des années 30, dans ce rapport particulier étrangers naturalisés et étrangers non naturalisés, effectivement, donne à la France une spécificité par rapport aux États-Unis, par exemple.
Bien sûr. Ça, je confirme. Il me semble qu'on ne prend pas assez en compte un élément. C'est que les territoires où se concentre l'immigration aujourd'hui, les banlieues, d'ailleurs qu'on décrit toujours, et ça rejoint finalement la thématique de l'étranger telle que vous la décrivez, les banlieues seraient actuellement des territoires où les gens seraient assignés à résidence. Il y a toute une sémantique qui rappelle un univers concentrationnaire, d'ailleurs.
Bon, c'est assez...
Non, non, je ne parle
ah,
pas
oui,
de vous. Hein, je
oui,
dire,
oui,
la politique de la ville, c'est ça.
Oui,
hein,
oui,
c'est
oui, oui.
Les ghettos, les gens sont relégués, assignés à résidence. Bref, il y a l'idée que la société française rejetterait dans ces quartiers-là tout ce qu'elle ne veut pas intégrer, hein, tout ce qu'on ne veut pas voir. Ce discours-là, il est assez partagé, je dirais, assez entendu. Quand on travaille précisément sur la politique de la ville, comme je le fais régulièrement, on relève une information, un fait qui est essentiel dans la compréhension de ce qui se passe actuellement, c'est que les territoires de banlieue sont les territoires les plus mobiles de France. Ceux où on arrive le plus... et ceux où on part le plus. C'est-à-dire que l'idée du rejet n'est absolument pas validée par l'observation, je dirais, de ce qui se passe dans ces quartiers, dans le parc de logement social. Et on voit bien que se joue là, non pas la question de l'étranger, du rapport à l'étranger, mais au contraire, la question de la modification, de la transformation très rapide de la population. Et la question, c'est comment réagissent les gens par rapport à ça? Restent-ils? Partent-ils? Souhaitent-ils se séparer?
Alors, je voudrais aller dans le même sens, Guillaume Leblanc, et même, si vous voulez, empirer presque les choses. Je ne crois pas que nous soyons dans la situation des années 30 avec une hostilité de la population de la société française à l'égard des étrangers qui seraient en l'occurrence parqués dans des ghettos. Je me demande même s'il ne faut pas inverser la proposition, c'est-à-dire hostilité non de la société d'accueil dont il faudrait déconstruire les discours, mais hostilité à la société d'accueil, qui explique en grande partie cette mobilité dont vient de parler Christophe Guilluy. Et là, tout de même, les exemples abondent. Ce qui se passe, c'est ce qui se passe en Île-de-France, ce qui arrive au personnel de santé, aux médecins. Vous n'avez aucun équivalent de cela dans les années 30. Les médecins qui se barricadent chez eux et qui sont obligés de mettre la clé sous la porte. Mais si le personnel de santé s'en va de Pierrefitte, les populations autochtones ou les classes moyennes s'en vont aussi. Et je peux donner un autre exemple, peut-être, si vous voulez, moins spectaculaire. Ce sont les déclarations de Recep Erdogan, le premier ministre turc, qui en 2008... dit « l'assimilation est un crime contre l'humanité », on ne s'exprimait pas comme ça dans les années 30, et qui dit aujourd'hui « intégration peut-être, assimilation jamais, l'islamophobie est un crime contre l'humanité, et les Turcs, vous êtes Turcs avant d'être Allemand, et vous devez apprendre le Turc avant d'apprendre l'Allemand, et ne rien abandonner de votre propre identité culturelle ». Il me semble que c'est une configuration tout à fait différente et de celle des années 30, et peut-être de celle que vous continuez à critiquer pour aujourd'hui dans votre livre, Guillaume Leblanc.
Oui, alors là, je vais...
Je poursuivais, si vous voulez, la critique de Christophe Guilluy.
Je me permets de répondre...
Vous répondez à l'un et à l'autre, mais voilà, de Christophe Guilluy d'abord.
Très bien, de deux façons. La première, c'est que je ne vois pas comment on peut, disons, d'un point de vue philosophique ou logique, induire du fait que les gens s'en aillent des quartiers, l'idée d'une hostilité, comme vous l'avez présumé, à la société d'accueil. Il me semble qu'on peut interpréter tout simplement le départ en termes de mobilité aussi en termes de fuyons un navire qui, au fond, coule un petit peu pour des raisons sociales, économiques, ethniques, etc., plutôt que dans un discours justement qui serait un discours d'emblée de l'hostilité. Ça, c'est un premier point. Ensuite, quand on dit qu'il n'y a pas d'hostilité de la société d'accueil, je crois qu'il faut quand même explorer tout ce que des associations comme Migre Europe signalent sur le développement vertigineux des aires de confinement des étrangers dans les pays européens et aussi dans les frontières extra-européennes. Il faut aussi réfléchir au durcissement juridique invraisemblable auquel nous assistons depuis 10, 15, 20 ans et qui se traduit par des difficultés supplémentaires accrues sur la possibilité d'obtenir la nationalité française, allemande ou autre. Et je remarque à propos de la référence à la Turquie et aux Turcs que le discours d'Angela Merkel a été perçu par beaucoup d'Allemands. Il se trouve que c'est un pays que je connais très bien pour y aller vivre régulièrement, pour y enseigner. Il se trouve que ce discours d'Angela Merkel a été perçu par beaucoup d'Allemands comme un véritable pas en arrière par rapport à l'idée justement d'une société multiculti à l'allemande, dont d'ailleurs, pour des raisons purement symptomales, qui avait été mis en avant dans la dernière équipe de la Mannschaft, où on parlait justement d'enfin de l'avènement d'une société multiculti.
Non, la Mannschaft, c'est l'équipe de football.
De l'équipe de foot allemande. C'est un gag, mais malgré tout, c'était la première fois que des Turcs, etc., pouvait jouer.
Mais alors, que pensez-vous du discours d'Erdogan? Alors, je vois la critique de Merkel, mais Erdogan, est-ce que c'est discours critiquable ou est-ce que ça fait partie du multiculti?
C'est un discours totalement critiquable, précisément parce que je crois que ce qui est beaucoup plus intéressant pour aborder ce genre de questions, et finalement, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, qui est un livre de philosophie, encore une fois, et pas de sociologie ni de géographie, etc. Donc, qui réexplore une idée qui est, au fond, l'idée démocratique en tant qu'elle est découplé de l'idée nationale. Au fond, ce que j'ai cherché à essayer de penser, c'est justement la dissociation à laquelle nous assistons aujourd'hui de plus en plus, et ici je rejoins certaines analyses de Habermas sur ce point, de l'idée démocratique par rapport à l'idée nationale. Et il se trouve que les pratiques aujourd'hui nombreuses dans notre pays qui s'appelle la France, les pratiques d'hospitalité, des réseaux éducation sans frontières, de toute forme de solidarité à l'égard des étrangers qui arrivent sur notre territoire, ne relève pas simplement, comme on le dit, d'un impératif compassionnel de bienveillance envers la misère du monde, mais relève beaucoup plus activement d'une critique des formats d'épreuves, comme dirait le sociologue Boltanski, qui encadre notre pays. Et ça, je crois que c'est un point absolument majeur. Notre hospitalité, les pratiques ordinaires d'hospitalité ne sont pas un recyclage de l'impératif de la raison compassionnelle, mais adressent, je crois, une véritable critique quant à ce lien entre idées démocratiques et idées nationales.
Christophe Guilluy.
Pour revenir sur la... Parce qu'en filigrane, il y a quand même ça, il y a toujours cette victimisation de l'étranger. Je crois que c'est un véritable problème, quoi. Déjà, c'est... moi, je le vois en local, c'est-à-dire que dans les quartiers, justement, la victimisation de l'étranger est quelque chose de catastrophique pour la victime, qu'on désigne comme victime. Alors que la réalité n'est absolument pas là. Je donne par exemple l'émergence de la petite bourgeoisie maghrébine en France. Elle a été très rapide. L'accession à la propriété. Moi, j'ai travaillé justement sur le passage du logement social à l'accès à la propriété. Aujourd'hui, cet accès à la propriété ne concerne pas seulement des populations françaises d'origine française. Concerne aussi une petite bourgeoisie maghrébine. On est dans une logique très positive. Le problème, c'est qu'en enfermant absolument ces populations dans ce statut de victime, on ne voit même plus le réel. Et le réel, il ne dit pas ce rejet à l'infini de ces populations différentes. Il dit au contraire une société qui est plutôt ouverte avait effectivement du racisme. Tout cela existe effectivement. Mais quand on parle de racisme, il faut aussi parler du racisme dans tous les sens. C'est ça aussi la question du multiculturalisme. Parce que ce qu'il faut aussi dire par rapport à la question de l'immigration, c'est que l'immigration aujourd'hui, dans un contexte de multiculturalisme, ne peut plus être pensée de la même manière qu'elle pouvait être pensée justement dans les années 30, où l'autre devenait moi. On était dans cette logique qui s'appelait l'assimilation. Aujourd'hui, tout cela est terminé. Donc, on est bien sur des logiques multiculturelles. Et que se passe-t-il? C'est ça qui est préoccupant. On assiste, malgré tout, à des logiques de séparation. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai pour les catégories supérieures, mais aussi entre catégories populaires. Et ça, c'est assez nouveau.
C'est-à-dire, vous parlez en effet dans votre livre, Christophe Guillouis, d'un véritable séparatisme territorial et culturel, ce qui vous conduit d'ailleurs à traiter avec une certaine ironie l'expression qui sert de titre à cette émission de vivre ensemble. Plus on parle de vivre ensemble, plus, semble-t-il, selon vous, la société se segmente. Alors, est-ce que vous pouvez poursuivre un peu l'analyse, Christophe Guillouis ?
On parle beaucoup de séparatisme social, avec effectivement les riches qui vivent dans des quartiers huppés, mais je dirais que tout ça n'est pas très très nouveau. Ce qu'on observe en réalité, c'est un séparatisme beaucoup plus généralisé, qui touche tout le monde. Le séparatisme, il n'est pas indiqué par le score du Front National. C'est que le Front National n'est qu'un indicateur parmi d'autres. Le séparatisme, c'est aussi le séparatisme de la bourgeoisie, des centres-villes qui va éviter le collège public du quartier. Et le séparatisme, c'est aussi ces gens qui quittent les banlieues pour aller effectivement sur des territoires ruraux, périurbains. Et là, on est bien sur une logique séparatiste à catégorie sociale égale. C'est ça, je dirais, la grande préoccupation.
Guillaume Leblanc.
Oui, alors vous avez évoqué l'idée de la victimisation de l'étranger. Je suis complètement d'accord sur ce point. Pour ma part, je n'essaie pas de penser quelque chose comme une victimisation de l'étranger. J'essaie au contraire, dans un sens qui va peut-être vous surprendre, de penser une productivité propre de l'étranger et ceci contre le fait que l'étranger est précisément celui qui, aujourd'hui, tend à être réduit à la figure de l'immigré, c'est-à-dire comme quelqu'un qui vient au fond chez nous, comme l'intrus qui vient prendre du travail, etc., etc. Alors que il faut, pour ma part, c'est ce que je m'emploie à faire dans un chapitre de ce livre, repenser la totalité de l'expérience de l'étranger depuis l'émigration et non simplement depuis l'immigration. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, nous voyons en quelque sorte scintiller les figures fugitives de l'étranger dès lors que celui-ci arrive sur l'île de Lampedusa, par exemple, et nous nous en inquiétons. Mais nous refusons de penser quelque chose comme une intelligibilité du mode de l'expérience de l'étranger qui commence par partir de chez soi. Et de ce point de vue, il me semble qu'il faut faire une phénoménologie de cette rupture avec chez soi, qui n'est pas une rupture simple. Il suffit que nous nous imaginions un instant que nous ayons nous-mêmes à partir, au risque de notre vie, au risque de quitter nos amis, notre langue, etc., pour comprendre que ce voyage-là ne peut pas se faire dans une pure simplicité. C'est, je crois, restituer la puissance d'être de l'étranger. C'est aussi, deuxièmement, comprendre que par rapport à des cultures identifiées, et le multiculturalisme justement identifie des cultures délimitées une fois pour toutes qu'il s'agit de préserver, de protéger, etc., selon une politique de la différence, c'est comprendre qu'il y a davantage, je crois, à essayer de repenser les zones de frottement, de contact, de transformation des cultures par les autres, d'hybridation.
Oui, mais alors ça c'est très intéressant, parce que Christophe Guillouis, disons, parle d'un séparatisme grandissant. Vous en appelez au contact, à l'hybridation et tout à l'heure à l'instabilité. Mais là, je voudrais poser une question presque sociologique aux philosophes, c'est-à-dire qui aujourd'hui veut l'hybridation ? Est-ce que ce ne sont pas avant tout les habitants des centres-villes qui sont en fait eux-mêmes protégés de ce qu'ils réclament? C'est-à-dire, ils veulent la mixité, mais comme dit Christophe Guillouis dans son livre, ils pratiquent l'évitement. Certes, il y a éducation sans frontières, mais éducation sans frontières, excusez-moi, je vais peut-être un peu exagérer, ça me fait penser à tous ces bobos qui veulent la régularisation des Sri Lankais ou Sri Lankaises qui travaillent chez eux. Bien sûr, on veut que les élèves qui sont dans les centres-villes, eh bien, puissent que leurs parents puissent avoir des papiers, mais on vit quand même dans les centres-villes, c'est-à-dire, on vit là où la culture autochtones est tout de même majoritaire. Disons que l'appel à l'instabilité dont vous parlez, ou à l'hybridation, vous ne l'entendrez pas venir de Seine-Saint-Denis. Jamais. Donc il y a quand même là une véritable difficulté. Je ne dirais pas une hypocrisie. Les gens sont sincères. Mais tout de même, est-ce qu'au bout du compte, ça ne fait pas le jeu du Front National, puisque ça culpabilise ceux qui parlent en d'autres termes, ceux qui ont d'autres réactions, alors que malgré tout, ils sont aux premières loges, Guillaume Leblanc.
Je pense, pour répondre à votre objection, que nous avons véritablement quand même durci les thèmes des identités en règle générale. Et que, ce faisant, effectivement, nous envisageons les zones de frottement comme, au mieux, des dérégulations, au pire, comme des formes de sauvagerie par rapport à ces identités. Mais, précisément, je pense aux études sociologiques de l'école de Chicago, par exemple, sur certains quartiers italiens à New York, qui montrent très bien de manière microscopique comment, justement, les habitants de ces quartiers, bien sûr, ils reproduisent des normes de leur culture d'appartenance et d'origine, mais en même temps, ils intègrent aussi tout autre chose. Et c'est, ils intègrent d'autres formes de langage, d'autres pratiques, de telle sorte que il y a à l'arrivée quelque chose comme effectivement la transformation d'une culture par une autre, sans qu'on puisse dire à un quelconque moment, et moi c'est ce qui m'intéresse, que sans qu'on puisse trancher un moment dans cette transformation en disant ça c'est ce qui relève d'une culture d'identité et ça c'est ce qui relève d'une culture d'emprunt. Je crois que cette division entre culture d'identité et culture d'emprunt, il faut la contester, y compris à partir effectivement de ceux qui voudraient, en habitant des centres-villes préservés, etc., se soustraire cette perception d'un dehors sauvage, rétif, etc.
On le fait même si on dit qu'on ne le fait pas. Je veux dire, tous nos immeubles ont des codes. Dans les centres-villes, c'est bien ce qui se passe.
Non, mais j'en appelle pas à ouvrir les portes et fenêtres et à sortir de Hobbes. Je dis simplement que la question du rapport entre le dedans et le dehors est dramatisé par ceux qui effectivement veulent s'octroyer le monopole du dedans et rejettent toute idée venant d'un dehors présumé qui n'est qu'un dehors fantasmé.
Christophe Guilluy.
On va revenir au sondage des 23% de Marine Le Pen.
Allez-y.
Les catégories populaires ne veulent pas préserver un dedans contre un dehors. Elles veulent se préserver. C'est complètement différent.
Ces
thématiques. Non, ces thématiques-là. Le multiculturalisme, la question de l'immigration. Philosophiquement, nous pouvons être d'accord. Après, je dirais que sur toutes ces thématiques, il y a, je dirais, les croyants et les pratiquants. L'immigration à 1000 euros par mois, ce n'est pas la même chose que l'immigration à 10 000. La perception du multiculturalisme à 1000 euros par mois, ce n'est pas la même chose que la perception du multiculturalisme à 10 000. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'est pas inscrit, je dirais, dans les gènes des catégories populaires, le rejet de l'autre. Absolument pas. Je ne crois absolument pas à ça.
Moi, c'est pas la thèse que je veux dire, la thèse que je soutiens, excusez-moi, c'est que la construction aujourd'hui de l'identité nationale, la construction donc d'une nation en référence au thème du national et donc aussi du nationalisme suppose, oui, effectivement, la construction d'une zone qui n'est pas une zone de pur dehors, mais qui est une zone dans le dedans, d'un dedans-dehors. Parce que, justement, l'idée même du dedans a été fortement précarisée. Et ça, je voudrais peut-être dire un mot là-dessus. Quand, dans les années 1900, 1910, 1920, nous avions effectivement deux modalités pour appartenir à une nation, pour être des sujets du dedans. Il y avait la modalité patriotique d'un côté, c'est la morale patriotique de Durkheim, c'est aussi d'une certaine manière l'idée que être dans la nation, c'est la plébiscité, le fameux plébiscite de tous les jours de Ronan. Et puis par ailleurs, c'était avoir du travail. Et il se trouve que ces deux modalités du dedans la morale patriotique, le patriote et le travailleur sont deux modalités qui ont été fortement précarisées, fragilisées, de telle sorte qu'aujourd'hui, effectivement, pour être dedans, nous ne pouvons être dedans que par référence à un dedans-dehors présumé. Et c'est l'irruption de ce thème, c'est très exactement le texte, par exemple, de Simmel sur l'étranger qui le démontre très bien.
Je ne crois pas ça. Je crois que il faut revenir à les gens ne souhaitent pas habiter dans des quartiers où il y a 5, 6, 10, 15 nationalités différentes. Ils cherchent à partir. Ils ne souhaitent pas scolariser, et les bobos non plus, leurs enfants dans des collèges où les nationalités sont très importantes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on n'est plus dans le rejet de l'autre, on est dans une logique de se retrouver dans un environnement familier. Et ne pas être dans une logique de devenir minoritaire. Majorité, minorité, c'est quelque chose d'essentiel. Je crois qu'au fond, ni les Français, ni d'ailleurs les Algériens, ni les Tibétains ne souhaitent être minoritaires. C'est-à-dire que ce n'est pas un souhait. Et c'est ça, l'idée de retrouver une forme d'autochtonie. C'est aussi, ça ne veut pas dire le rejet de l'autre.
Alors oui, alors j'irai encore une fois dans le même sens, Guillaume Leblanc, et cette fois-ci en citant Lévi-Strauss, en réaction à ce que vous avez dit sur la construction de l'identité ou du récit national. Lévi-Strauss dit ceci, que des cultures attachées chacune à un style de vie, à un système de valeurs, veillent sur leur particularisme. Il dit « cette disposition est saine, nullement, comme on voudrait nous le faire croire, pathologique ou variante, fantasmatique ». Et il donne un exemple qui va dans le sens aussi de cette autochtonie dont vient de parler Christophe Guillou. Si mon travail requiert le silence et qu'une communauté ethnique s'accommode du bruit ou même s'y complaît, je ne la blâmerai pas et n'incriminerai pas son patrimoine génétique. Je préférerais toutefois ne pas vivre trop près et apprécierai peu que sous ce méchant prétexte, on cherche à me culpabiliser. Ce qui serait très grave, c'est d'entrer dans une situation où seule une responsable politique, aussi dangereusement démagogique que Marine Le Pen, fasse écho à ce genre de préoccupation, à ce type de souci. C'est ça aussi le danger qui nous menace. Et vous voyez que dans cette préservation d'un certain style de vie ou d'une certaine civilisation française, il n'y a rien qui puisse, si vous voulez, se construire à partir du rejet de l'étranger ou de la transformation de l'étranger en ennemi. Cette civilisation française a existé. Je ne vois pas ce qu'il y a de grave à vouloir que ça continue.
Oui, mais je dirais elle a existé sur le mode de la transformation, de l'invention, et tout autant que sur celui de la préservation. Et à trop mettre l'accent sur la préservation d'un style de vie, d'une culture attachée à un style de vie, on risque effectivement de construire un jugement de valeur, passer d'un niveau descriptif à un niveau prescriptif, comme le fait Lévi-Strauss dans cet entretien, puisque lorsque Lévi-Strauss dit que cette disposition est saine. Bien sûr, les cultures sont attachées à un style de vie, mais il se trouve que l'histoire des cultures est tout autant attachée à l'histoire des transformations de ces styles de vie, et de ces transformations, aucune norme par avance ne peut établir la distinction entre le normal et le pathologique. Oui, mais parce que nous ne savons pas.
Mais vous jugez
pas a priori explorer ces formes de vie nouvelles.
Sauf que.
Et ça, c'est un point important, je crois.
Guillaume Leblanc, vous jugez pathologique ceux qui aujourd'hui semblent résister, non pas à la transformation en soi, mais au type de transformation que la réalité, la mondialisation, la circulation des personnes leur impose. Pourquoi cette réaction serait-elle jugée pathologique? Pourquoi ne serait-il pas légitime, pour reprendre les termes de Christophe Guillouis, que dans un pays donné, l'autochtone soit le référent culturel?
Parce qu'il y a, et je vais répondre à cette très très bonne question, parce qu'à mon sens, il y a trois niveaux de la politique. Il y a effectivement le niveau national de la politique instituée, mais il y a aussi, et c'est ce vers quoi Habermas allait lorsqu'il revisitait l'idéal cosmopolitique du texte de Kant de 1785, le projet de paix perpétuelle, il y a la suprapolitique cosmopolitique avec laquelle les gens ont un rapport, et il y a aussi l'infrapolitique des vies subalternes. Et aujourd'hui, le drame est que nous évaluons l'expérience politique à partir du seul critère de l'identification abusive à mes yeux, entre le récit démocratique et le récit national. Il se trouve que nous sommes en train d'assister aujourd'hui à un débordement du récit national par des formes de récit démocratique qui empruntent à l'infrapolitique des vies ordinaires, d'une part, et à la suprapolitique de la cosmopolitique, de l'autre. Et c'est, je crois, cela l'événement de notre présent.
Je voudrais dire que l'autochtone, en milieu populaire, a toujours été bienveillant avec l'autre.
Toujours, vous diriez ça ?
Toujours, plus ou moins, on va dire. Dans le sens, jusqu'à ce qu'il ne soit plus un référent culturel. Le problème en milieu populaire n'est pas l'arrivée de l'autre. Tant que l'autre vous prend pour le référent culturel, et l'autochtone était celui-là. Aujourd'hui, dans une logique multiculturel, l'ouvrier, les catégories populaires ne sont plus des référents. Et le FN monte à ce moment-là. C'est-à-dire que j'accepte l'autre si je suis un référent. La question du multiculturalisme, elle se pose là précisément.
Alors, si je peux dire j'aurais une ultime question. Bien sûr, vous avez le temps, bien sûr.
Sur ce point, c'est sur cette référence à l'autochtone. J'aurais volontiers envie de poser la question, où est l'autochtone ? Montrez-moi l'autochtone, dès lors que celui-ci, son travail est extrêmement précarisé, son sentiment d'inscription dans une communauté est lui aussi très précarisé. Autrement dit, quel est ce mythe de renaturaliser l'habitant ordinaire de notre pays aujourd'hui, qui serait l'autochtone, dès lors que les formes sociales dans lesquelles il se situe, justement, ne lui permettent plus d'assurer son rapport à un dedans?
Non mais d'accord, mais l'autochtone existe. L'autochtone existe.
Le discours de l'autochtone existe.
Vivre là où on est né, c'est quelque chose qui existe.
Ah non, pas du tout.
Bien sûr que si. Alors c'est ça.
C'est un peu le français, la langue maternelle.
Vivre ici est une chose. Dire que en vivant ici, je suis un autochtone, c'est déjà construire une catégorisation de son vivre ici qui implique plein de présupposés naturalistes que je ne partage pas.
C'est pas des présupposés naturalistes.
C'est des présupposés à la naturalité.
Si le français est votre langue maternelle, si l'autre français est votre langue maternelle, c'est pas tout à fait la même chose que s'il ne l'est pas.
Non, mais ça, je suis
d'accord. Et on ne peut pas dire comme Badiou, tout celui qui est ici est d'ici. Il y a celui qui est d'ici, mais celui qui est d'ici, ça représente quelque chose. Il y a simplement ces degrés d'autochtonie, bien sûr. Voilà pourquoi, moi, l'expression de Français de souche ne me dérange pas, alors que je ne peux pas me l'appliquer à moi-même. Mmh. Mais il y a des Français de souche.
Mais est-ce que vous seriez...
C'est pas la même chose avec le général de Gaulle et moi.
Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que le problème commencerait quand l'interrogation suivante, c'est-à-dire à quelles conditions des vies peuvent accueillir de manière pacifique et non violente d'autres vies. Le problème de la non-violence, je le pose explicitement dans mon livre, est pour moi un problème essentiel dans le rapport justement à l'autre.
Alors, à vous la mot de la fin, Christophe Guilluy.
C'est intéressant cette question de la violence. Les violences contre l'étranger actuellement sont très faibles, très très faibles en France. Nous ne sommes pas dans une logique de guerre civile, nous ne sommes pas dans une logique d'affrontement. La question du séparatisme, elle est justement l'opposé de cette logique de conflit. Je quitte, je pars, mais je ne rentre pas en conflit. Mais donc ça pose bien la question.
Et on part notamment souvent à cause de la violence, vous le dites.
Bien sûr.
Ce n'est pas le racisme qui fait que les gens s'en vont, c'est le climat de violence dans lequel ils ne veulent plus vivre.
Bien sûr, bien sûr.
Et donc la violence, elle est aussi là, non,
Guillaume Leblanc? Il me semble que dans votre livre, vous montrez que ce climat de violence est totalement reconstruit, en partie médiatiquement, ce que je n'ai pas entendu aujourd'hui de votre part.
C'est la question.
Et qu'il faudrait aussi s'interroger sur les cadres conceptuels, narratifs, par lesquels nous déclarons des vies comme des vies violentes et d'autres comme des vies d'ici, justement, des vies autochtones.
Je ne sais pas en même temps si la violence qui sous forme de parpaing à toucher
oui, la violence
un
au col...
CRS qui est aujourd'hui dans un coma artificiel non, et immédiatement et construite.
La violence en col blanc, etc. Les figures de la violence, il faut faire très attention quand on parle de la violence, de savoir exactement de quel type de violence on parle et comment on en parle.
Bien, bah écoutez, ça mériterait en effet une prolongation. Elle devrait avoir lieu dans cette émission, mais je voudrais maintenant renvoyer à vos deux livres. Guillaume Leblanc, « Dedans, dehors, la condition d'étranger », c'est un livre publié aux éditions du Seuil, et Christophe Guillouis, « Fracture française », ce livre est publié chez François Bourin. La semaine prochaine, l'émission portera sur l'enjeu des nanotechnologies. Mes invités seront Étienne Klein et Olivier Rey. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et de notre stagiaire Claire Martinet et de Didier Lagarde. À la technique, Benjamin Vignal. Dans un instant, concordance des temps.